Voici une question dont la réponse pourra transformer plusieurs auditeurs aujourd'hui même. Est-ce que Dieu veut sauver les gens parmi toutes les nations? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse merveilleuse aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va voir davantage à quel point Dieu nous aime au cours de cette émission. Simplement en répondant aux questions que voici. Est-ce que Dieu appelle des personnes au salut parmi toutes les nations? Y a-t-il des gens qui méritent d'être sauvés? Avons-nous tous la responsabilité de venir au Seigneur Jésus pour être sauvés? Est-ce que le fait d'être religieux compte pour le salut si on est sans intimité avec le Seigneur Jésus? Est-ce que les Juifs et les païens peuvent être sauvés aujourd'hui? Est-ce que les croyants doivent évangéliser les Israélites aussi bien que les païens? Est-ce que le fait d'être membre d'une confession religieuse exclut le besoin de recevoir Jésus comme sauveur? Comment est-ce qu'on obtient la justice de Dieu? Demeurez avec nous. Les réponses à nos questions sont toutes dans la Bible, le grand livre de Dieu. Et le pasteur Jean Joly est prêt à nous enseigner ce que Dieu dit dans sa parole. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on aime ta parole. On sait que ta parole est la vérité. Et on te demande de nous affranchir par la vérité aujourd'hui, de libérer beaucoup de gens par ta parole aujourd'hui même, Seigneur. Touche des cœurs pour qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à toi pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Et enseigne-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, au chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains, nous avons vu que Dieu a encore des projets pour la nation d'Israël. Nous avons examiné 8 éléments qui distinguaient Israël des autres nations. Les revoici. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le service de Dieu, les promesses, les pères tels qu'Abraham, Isaac, Jacob et Christ le Messie. Nous avons appris que ce ne sont pas tous les descendants d'Israël qui sont les enfants de la promesse, donc la descendance spirituelle. Dieu fait des choix selon sa volonté souveraine et il n'y a pas d'injustice en lui. Aujourd'hui, nous terminons l'étude du chapitre 9 et nous entreprenons celle du chapitre 10. Nous sommes à la dernière section du chapitre 9. Paul a clairement établi que la nation d'Israël fut choisie en vertu de la volonté souveraine de Dieu, non à cause de ses mérites. Dieu n'a pas seulement choisi une nation et sauvé les membres de cette nation qui se sont tournés vers lui, ces personnes ayant toujours formé un reste, mais il appelle aussi un peuple en son nom parmi les païens. Chers amis, débutons notre lecture de Romains chapitre 9, les versets 24 à 26. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dieu appelle des personnes de toutes les nations. Paul cite Osée, chapitre 2, verset 23. Un verset qui réfère à la nation d'Israël. Dans son temps, Pierre a appliqué ce verset au reste d'Israël, qui a perpétué la nation. À son peuple, qui s'est tourné vers le Seigneur, Jésus lui a dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. La deuxième prophétie, que nous retrouvons au verset 26, vient d'Osée, chapitre 1er, verset 10, et se réfère aux païens, de toutes parts sur la terre, qui se tournent vers le Seigneur Jésus, maintenant, ou qui le feront dans l'avenir. Jacques a dit, « Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations, sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. » Actes chapitre 15, verset 17. Donc, Dieu a touché l'Europe avec son évangile, et il ne l'a pas fait parce que les Européens étaient supérieurs aux autres. Certains Caucasiens, race blanche, pensent qu'ils forment une race supérieure. Ce n'est pas le cas. La civilisation chinoise devançait la civilisation européenne au temps de l'apôtre Paul. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je loue Dieu qui agit de façon merveilleuse. Versets 27 et 28. Isaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Paul cite le prophète Isaïe, chapitre 10, versets 22 et 23. « Seul un reste d'Israël sera sauvé pendant la grande tribulation. » Si vous voulez estimer le pourcentage, considérez que seulement 144 000 Juifs seront scellés alors qu'il y en a de 15 à 20 millions dans le monde. Quoique davantage que 144 000 seront sauvés, les 144 000 seront ses témoins, et un petit reste au plus sera sauvé. Au cours de l'histoire d'Israël, ce fut toujours un reste qui fut sauvé, et il en sera de même pour les païens. Ne me demandez pas pourquoi il en est ainsi. C'est Dieu qui exerce sa miséricorde. S'il sauvait une seule personne, il manifesterait sa miséricorde, car personne, je dis bien, personne ne mérite d'être sauvé. Verset 29. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Les membres orgueilleux d'Église doivent obtenir miséricorde comme les autres. Dans ce verset, Paul cite Ésaïe, chapitre 1er, verset 9. C'est un énoncé étonnant, mais c'est un bon exemple de la souveraineté de Dieu. Même le peuple choisi par Dieu aurait pu devenir comme Sodome et Gomorre en ce qui concerne la dépravation et la rébellion envers Dieu si celui-ci n'était pas intervenu par sa miséricorde souveraine pour sauver un reste. Ceci devrait parler aux pharisiens et aux membres d'Église orgueilleux. Seule la grâce de Dieu nous empêche d'aller en enfer, mes bien-aimés. Verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Quel énoncé palpitant! Les païens, sans le vouloir et sans le mériter, ont obtenu la justice en Jésus-Christ parce que Dieu a bien voulu la leur procurer. Les Écritures l'avaient prédit dans l'Ancien Testament. Comme nous l'avons souligné, Ésaïe avait annoncé que les païens seraient sauvés. Verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Cet énoncé est lourd de conséquences. Les Juifs ont essayé de produire leur propre justice au moyen de la loi mosaïque. Ils n'ont pas réussi. Regardez la nation d'Israël aujourd'hui. Les personnes religieuses sont parmi les plus difficiles à approcher avec l'Évangile. Bien des membres d'Église pensent qu'ils sont assez bons pour aller au ciel. Nous avons tous la responsabilité de venir au Seigneur Jésus. Vous ne réussirez jamais à concilier la souveraineté de Dieu avec la responsabilité humaine. Mais Paul établit clairement que si vous êtes pour être sauvé, c'est votre responsabilité. Si quelqu'un veut venir, « qu'ils viennent », dit l'évangéliste Marc, chapitre 8, verset 34. Et, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Parole de Jésus, citée par l'évangéliste Jean, chapitre 6, verset 37. « Vous pouvez venir. Ne vous tenez pas à l'écart en disant « Je ne suis pas un élu. Je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui s'est fait élire sans premièrement poser sa candidature. Si vous désirez être sauvé, vous êtes un élu. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas un élu. C'est tout ce que je sais. Je ne puis concilier l'élection et le libre arbitre. Je peux cependant affirmer que Dieu est souverain et qu'il accomplit sa volonté. Sa volonté est juste, car il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il ne fait pas d'erreur. Les hommes font des erreurs. Les hommes qui nous gouvernent font des erreurs. Mais nous croyons toujours en eux. Mes amis, pourquoi ne croyez-vous pas Dieu? Il est juste, il est bon, et tout ce qu'il fait est juste. » Versets 32 et 33. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Cette citation provient d'Ésaïe, chapitre 8, verset 14, ainsi que d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Les Juifs ont trébuché parce que leur Messie est passé par la croix. Pour les païens, la croix est une folie, car ils s'appuient sur la sagesse humaine. Ceux qui croient, Juifs ou païens, seront sauvés. La personne humble va simplement croire Dieu. L'homme naturel essaie de se procurer son propre salut. Il va essayer de concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme comme si son cerveau minuscule était capable de le faire infailliblement. Nous avons vu qu'Israël est présentement dans un état de perdition. Ils sont perdus. C'est leur état, aujourd'hui. Ils sont perdus comme le sont le reste des païens. Ils le sont tous, parce que le Seigneur Jésus est la fin de la loi de la justice. Il est LE Sauveur qui rachète les siens en mourant à leur place pour leur donner un salut gratuit. De nombreux Juifs ont compté sur la loi pour se procurer leur propre justice. Maintenant, chers amis, au chapitre 10, Paul passe de la souveraineté de Dieu à la responsabilité de l'homme qui fut introduite à la fin du chapitre 9. Romains, chapitre 10, verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ils sont responsables. Voyez-vous, responsables devant Dieu. Le Seigneur leur avait dit, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Luc, chapitre 19, versets 43 et 44. C'est l'état dans lequel se trouve Israël aujourd'hui. Israël est entouré de nations qui veulent les refouler à la mer. Pourquoi? Vous pouvez blâmer les Arabes, la Russie ou qui que ce soit d'autre. Vous pouvez blâmer Dieu, si vous le désirez, parce qu'il dit que la raison qu'Israël se retrouve dans cette situation, c'est qu'elle n'a pas connu le temps où la nation fut visitée. Donc Paul dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Maintenant, observons trois détails au sujet de cet énoncé. Être religieux, sans intimité avec le Seigneur Jésus, ne compte pas. Premièrement, Israël, malgré sa religion, ne fut pas sauvé. Je dirais même qu'une grande proportion des membres d'Église n'est pas sauvée. Ils font simplement partie d'un club religieux. Ils sont toujours en rébellion contre Dieu et ils n'acceptent pas la justice de Dieu proposée en Jésus-Christ. Vous pouvez être une personne religieuse et être une personne perdue. Israël avait reçu sa religion de Dieu, mais ils avaient tout de même besoin d'être sauvés. Ils avaient une religion, mais pas la justice de Dieu. Israël avait reçu davantage que les autres nations, mais son peuple était perdu. Paul désirait ardemment qu'Israël soit sauvé. Deuxièmement, il était possible pour Israël d'être sauvé. Paul n'aurait pas prié pour sa nation s'il avait déjà été condamné éternellement. Les païens pouvaient être sauvés. L'Évangile fut apporté à nos ancêtres européens ainsi qu'à d'autres nations. Juifs et païens peuvent être sauvés aujourd'hui. Troisièmement, les Israélites sont sur le même pied d'égalité que les païens, et ils devraient être évangélisés comme toute autre personne qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus intimement. Il n'y a aucune différence aujourd'hui, car la Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le concept d'une race supérieure ou d'une race inférieure est tout à fait ridicule. Le sol au pied de la croix est aplani. Qui que vous soyez, votre situation sociale, votre confession religieuse, vos œuvres ou la couleur de votre peau ne vous seront d'aucun secours. Sans le Seigneur Jésus, vous êtes en route vers l'enfer. Dieu est juste quand il vous dit cela. Peut-être vous dites-vous, « Je n'aime pas ce que disent ces prédicateurs aujourd'hui. » Bien, c'est ce que Dieu dit, mes amis. Dieu l'affiche avec des néons, afin que vous remarquiez son message. Il ne passe pas inaperçu. Certaines personnes affirment qu'il faut prêcher l'Évangile aux Juifs, premièrement. Je pense que Paul disait que les Juifs ont reçu l'Évangile les premiers chronologiquement. Pendant les premières années, alors que l'Évangile fut proclamé à Jérusalem et en Israël, pas un païen ne fut sauvé. L'Église était entièrement juive. Cependant, je ne crois pas que la Bible nous dise d'évangéliser les Juifs en premier de nos jours. Mais je ne crois pas davantage que nous devrions négliger les Juifs lorsque nous évangélisons. Le Juif fait partie du plan de Dieu et il devrait entendre l'Évangile. Tous devraient entendre l'Évangile aujourd'hui, car nous sommes dans une période de grâce. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Est-ce que le Seigneur Jésus est votre sauveur, mes amis? Je connais des églises qui sont de véritables fourmilières. Le lundi, c'est le basketball. Le mardi, c'est le football. Le mercredi, le volley-ball. Le jeudi, le baseball. Et le vendredi, c'est la fête. Ces églises ont des activités tous les soirs. Ils ont du zèle pour Dieu. Ces églises font tout cela au nom de Jésus-Christ. Mais ils n'ont qu'une religion. Mes amis, la voici la question. Avez-vous le Seigneur Jésus? Vous ne pouvez pas être sauvé par aucun autre chemin. Pour aller au ciel, il faut être parfait. Mais aucun nous ne l'est. Mais je vais au ciel, parce que le Seigneur Jésus est mort pour moi. Et il fut enseveli, et il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Il fut livré pour mes péchés, et ressuscité pour ma justification. Il est ma justice. Je vais entrer au ciel un jour parce qu'il a pris ma place. Est-ce que le Seigneur Jésus est votre sauveur? Ne considérez pas le fait que vous êtes membre d'une confession religieuse. Je ne veux pas minimiser cela, mais ne comptez pas sur cela pour être sauvé. De nombreuses églises sont mortes aujourd'hui. Certaines églises sont si mortes que les membres sont aussi bien d'aller jouer au golf le dimanche. Ce que je veux dire, trouvez-vous une église où l'on enseigne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le seul moyen de salut aujourd'hui. C'est si merveilleux d'avoir une relation intime avec notre Sauveur. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ceci fut vrai au sujet de la nation d'Israël. Et c'est vrai pour de nombreux membres d'Église aujourd'hui. Il est étonnant de voir combien de gens lisent la Bible tout en étant aveugles à ses enseignements essentiels et en ne se les appropriant pas dans leur vie personnelle. C'est triste de voir combien de gens ont une connaissance intellectuelle de la Bible sans en connaître la puissance transformatrice. Il n'est pas rare de voir des hommes ayant des postes de responsabilité dans les églises se promener avec de si grosses Bibles qu'ils penchent de côté, mais sans jamais croître spirituellement. Ils n'ont aucun discernement spirituel. Certaines églises ne savent plus ce que c'est que d'être sauvées. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Être la fin de la loi signifie en être le but, l'objectif ultime, chers amis. Le Seigneur fut clair à ce sujet. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Matthieu, chapitre 9, verset 16. Jésus-Christ n'est pas venu rapiécer un vieux vêtement de justice, mais il est venu en apporter un tout neuf, celui de sa justice. La loi mosaïque fut donnée pour conduire les gens au Seigneur Jésus, non comme moyen de salut. Paul a dit aux Galates, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Galates, chapitre 3, verset 24. La loi servait non à nous sauver, mais à nous révéler notre besoin d'être sauvés. Elle nous prend par la main et nous conduit à la croix, afin d'y rencontrer notre cher et bien-aimé Sauveur. Elle dit, « Mon petit, tu as besoin d'un grand Sauveur. Christ est la fin de la loi, le but ultime, l'objectif ultime. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Galates, chapitre 5, verset 4. La loi n'est pas un code de vie, ni un moyen de salut. Elle est pour ceux qui croient, ce qui suggère la gratuité et l'universalité du salut. La loi conduit au Seigneur Jésus. Verset 5. En effet, Moïse définit ici la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La justice que vous pouvez obtenir par la loi serait la vôtre et non celle de Dieu. Elle ne se mesurera jamais à celle de Dieu, qui est parfaite. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. La justice de Dieu est disponible par la foi. Paul parle de monter au ciel pour aller chercher la justice ou de descendre en enfer pour la rapporter, mes amis. La justice dont parle Paul, qui cite Deutéronome 30, versets 11 à 14, est disponible présentement. Verset 7. Ou, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Nous n'avons pas à aller où que ce soit pour obtenir la justice de Dieu. Elle est disponible maintenant, par la foi, là où vous êtes. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La justice de Dieu est disponible là où vous êtes présentement. Vous n'avez pas assisté à une campagne d'évangélisation ou à participer à un événement religieux. Le salut est disponible présentement là où vous êtes. N'est-ce pas merveilleux? Versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Toi qui dis avoir reçu Christ, es-tu sauvé? As-tu établi une relation au niveau du cœur avec Dieu? Prochaine émission, Romains chapitre 10, verset 7 à chapitre 11, verset 10.
Merci beaucoup, Régent. Les deux derniers versets que tu as cités aujourd'hui me rappellent de vraiment bons souvenirs. C'est dans l'épître de Paul aux Romains, bien sûr, au chapitre 10, les versets 9 et 10. Lors de mes premiers pas dans les voies de Dieu, il y avait un grand cadre qui affichait ces versets sur le mur qui nous faisait face à l'Église. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. J'avais 30 ans, mais j'étais, pour ainsi dire, un petit bébé dans le Seigneur. Je venais d'accepter Jésus comme sauveur. Je venais de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. J'étais enfin certaine que si je mourais, je m'en allais tout droit au ciel pour être avec mon sauveur, pour être avec Dieu éternellement. Je croyais ce que disaient ces deux versets. Je croyais dans mon cœur que Dieu avait ressuscité Jésus des morts. Je croyais du cœur. J'étais parvenue à la justice, moi qui avais cherché la justice toute ma vie. Je venais de recevoir le salut de Dieu et j'étais fière de le confesser de ma bouche. J'étais fière d'être une nouvelle créature, d'être née de nouveau et je voulais que tout le monde le sache. Et j'ai annoncé la bonne nouvelle dans des talk shows et on a cessé de m'inviter. Ce n'est pas tout le monde qui veut entendre parler de la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui veut savoir qu'on est tous pécheurs, qu'on est tous privés de la gloire de Dieu, à moins de mettre notre confiance en Jésus seul pour être pardonné, pour être justifié, pour avoir la vie. Mais ça ne me punissait pas d'être rejeté par des gens. Je vivais dans la présence de Dieu. Je lui parlais par la prière. Il me parlait par sa parole. Je chantais ses louanges dans la grande assemblée. Et Dieu me faisait plein de cadeaux. Surtout en me donnant la joie de conduire des âmes perdues à lui pour qu'il les sauve. Et maintenant, 27 ans plus tard, je suis encore dans la joie. Alors, j'ai vécu des épreuves, j'ai connu des douleurs, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Il n'a jamais permis que je doute du salut qu'il m'avait donné. Gloire à Dieu! Mon ami, veux-tu avoir cette même assurance que le jour où tu mourras, tu iras tout droit au ciel? Veux-tu vivre une vie abondante, une vie qui n'est jamais ennuyante, une vie remplie de bénédictions de Dieu? Fais ce que j'ai fait. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse coupable, que tu ne mérites pas d'aller au ciel. Et maintenant, place ta confiance en Jésus seul pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Dieu dit que celui qui croit en lui ne sera pas confus. Demande à Jésus de te sauver. Dis-lui, maintenant, « Seigneur, sauve-moi. » Si tu crois dans ton cœur, il va honorer ta foi. Il va te faire ce beau cadeau, le cadeau de la vie éternelle. Mets ta confiance en Jésus. Reçois-le en ce moment. Il frappe à ta porte. Il veut te donner la vie éternelle. Laisse-le entrer. Tu vas être tellement bien dans la présence de Dieu. Tu vas être avec Jésus éternellement.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.